Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver pour une seconde et dernière partie de votre émission consacrée au fact-checking. Une méthode perçue aujourd'hui comme une alternative pour barrer la route à la désinformation. Que peut le fact-checking face à la désinformation? Quatre studios de la Fondation Hirondelle, dont Studio Hirondelle du Tchad, Studio Tamani du Mali, Studio Yafa du Burkina Faso et Studio Kalangou du Niger posent le débat aujourd'hui. Et avec nous encore pour en parler, Saïba Gousmon, chroniqueur et acteur de la société civile tchadienne, Jean Bosco Manga, juriste, journaliste et écrivain tchadien, Ousmane Mamoudou, rédacteur en chef adjoint chargé du numérique au studio Kalangou, et enfin Frédéric Doumbé, directeur de l'information du groupe Tchad Info. Bonjour à tous et bienvenue dans nos locaux.
Bonjour.
L'infox, une fois publié, pollue très vite les réseaux sociaux, et ce, malgré différentes organisations ou médias dédiés à la vérification des faits. Comment les fact-checkers peuvent efficacement lutter contre les fake news? Quelles sont les formes adaptées? Aliou Diallo, chargé de programme de fact-checking au sein de la plateforme d'information Ben Béré, répond au micro de Draman Maïga de Studio Tamani au Mali.
C'est toujours un jeu de chat et souris entre le fact-checking et puis les fausses informations. Le fact-checking tel que nous le pratiquons ici, par principe d'ailleurs, ça intervient après publication d'une fausse information. Ça veut dire que c'est un travail posturé. On fait du fact-checking que s'il y a un élément à vérifier. Donc la fausse information a toujours une longueur d'avance. Mais cela n'empêche que l'impact du fact-checking, moi je pense qu'il ne faut pas les mesurer tout de suite et maintenant, disant qu'on veut. La fausse information, elle peut avoir un impact tout de suite et maintenant, et ça peut être un impact vraiment grave. Mais le fact-checking a cet avantage d'agir sur la durée. Et donc, il faut comprendre cela. Par rapport au format, il faut vraiment s'adapter au contexte dans lequel nous vivons, parce que ce travail-là, comme le journalisme d'ailleurs, ne peut pas se faire indépendamment du contexte politique, économique et social. Donc, je pense qu'il faut utiliser les langues locales dans la mesure du possible. Il faut utiliser la radio comme vecteur d'une information de qualité ou comme moyen de promotion, d'éducation aux médias et à l'information. Parce que là où prospère le fact-checking, c'est au préalable si on a travaillé assez sur les esprits pour que les gens soient outillés, armés pour pouvoir consommer l'information. Donc les actions d'éducation aux médias et à l'information peuvent être vraiment promis pour qu'on puisse véritablement avoir l'impact sur ce qui est fait dans le fact-checking. Donc les canaux, c'est vraiment la radio. Les formats sur les réseaux sociaux, j'ai admis que la vidéo est consommé de plus en plus et les plateformes s'adaptent à ça et il faut aussi l'exploiter même si ça coûte plus cher.
Alors Frédéric, après l'intervention de l'expert Maïga, vous êtes aussi journaliste, est-ce que le fact-checking n'arrive pas le plus souvent en retard? C'est déjà, les faits sont déjà faits.
Alors, merci pour la question. Je pense que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de l'expert et il a abordé les points essentiels. Alors, on ne peut malheureusement pas faire du fact-checking avant, c'est-à-dire on n'anticipe pas systématiquement une rumeur ou bien une fausse information. Ce que je souhaiterais dire peut-être à ce niveau, c'est que à la base, normalement, il faudrait que dans nos pays, qu'il y ait une espèce d'éducation aux médias et à l'information, de sorte à ce que peut-être ce soit même intégré de base dans notre système éducatif ou bien dans le curriculum. Et à côté de cela aussi, il faudrait nécessairement que le pouvoir public ou bien politique puisse, j'ai envie de dire...
Mais avant même que le pouvoir public ne puisse intervenir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, au moment où on dit de faire le fact-checking, la faute est déjà commise, c'est déjà dans les esprits, est-ce que c'est pas trop tard?
Tout à l'heure, sur ce plateau, quelqu'un a fait mention d'une étude du MIT qui dit que les fausses informations vont 6 fois plus vite. Et il y a une autre étude, que j'ai oublié les références, mais qui dit, par exemple, que le cerveau ne fait que retenir ce qui est négatif. Donc, c'est une configuration plus ou moins, on va dire, humaine de la chose, qui fait que la fausse information diffusée peut avoir tout de suite des dégâts considérables. Mais le fact-checking viendra corriger et ça va servir maintenant pour l'avenir.
Ça va servir pour l'avenir. Ouais. Ousmane, il dit que ça va servir pour l'avenir. Est-ce que c'est pas trop tard? Généralement, c'est fini, c'est fini, hein, c'est déjà fait.
En fait, ce qu'il dit est vrai parce que même si on a l'impression que sur le coup, c'est pas efficace, la même des infos peut revenir 10 ans après. Alors, il y a plein de sujets qui reviennent régulièrement qui ont déjà été vérifiés. Donc, ce qui fait que ça a un certain impact. Mais il y a un vrai problème qui est celui même de la crédibilité du fact-checking aujourd'hui. On voit que beaucoup les États régulent quand ça les arrange. Et ils laissent faire quand ça les arrange aussi. Et on voit dans beaucoup de contextes que arrêter ou stopper la désinfo, c'est pas tellement dans les agendas. On le voit aux États-Unis, par exemple, où quand même il y a les plus grosses boîtes aujourd'hui qui régulent les plateformes, en tout cas sur lesquelles circule la désinfo. Facebook a coupé d'ailleurs son financement pour les fact-checkers. Aujourd'hui, ce programme n'existe plus. D'ailleurs, disent lui, Facebook, Elon Musk et M. Trump, ils disent que les fact-checkers, en fait, ce sont des censeurs. Ça, c'est une vision politique aussi qu'il faut considérer. Donc, le travail, il est nécessaire, il est essentiel. Et c'est aux journalistes, je pense, de s'asseoir, de voir comment on fait pour que la désinfo ne prospère pas. Parce que moi, je pense que le principal problème, c'est que ça continue à prospérer. La faute à qui? Encore une fois, quand on est en ligne, moi, je pense que la faute revient d'abord aux plateformes qui refusent de réguler puisque elles se considèrent pas comme des médias. Malheureusement, Facebook dit non, mais si on dit à Facebook de retirer une des infos, il dit non, mais moi, je suis pas responsable de ça. Moi, je suis seulement hébergeur. Moi, les personnes qui publient leur contenu, ils sont responsables. Donc, c'est au pays de réguler. Donc, vous voyez, il y a tout ce problème-là et malheureusement, dans nos contextes, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau régional pour interroger ces plateformes-là, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, etc.
On n'arrive pas à se mettre d'accord.
Oui, c'est comme si on était quelque part peut-être pas important aux yeux de ces plateformes ou parce que l'intérêt politique aujourd'hui de la région ne s'y prête pas.
Alors, et parlant de vérification, comment intégrer l'intelligence artificielle dans la vérification des infos sans pour autant perdre la rigueur humaine?
Alors, intégrer l'intelligence artificielle, je pense que des médias le font déjà. Moi, j'utilise, je m'en cache pas, des fois les outils d'intelligence artificielle comme Perplexity, par exemple, qui est très bien noté sur tout ce qui est citation de sources. Mais après, le problème que ça pose, c'est que j'ai l'impression que tu prends souvent plus de temps à vérifier ce qu'une IA t'a donné qu'à chercher toi-même. Il y a ce problème-là, mais après, ça, c'est des ouvertures et ça te permet aussi d'accélérer, la veille sur les réseaux sociaux. Après, tout ça, on parlait tout à l'heure d'outils élitistes. Quand on veut intégrer ces outils d'intelligence artificielle totalement dans la chaîne de production des médias, malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même des gens qui ont des compétences qui vont pouvoir intégrer ces outils. Puisque, par exemple, je ne sais plus quand j'ai lu un article qui disait, en fait, aujourd'hui, on peut même faire de la veille sur TikTok, ce qui est très compliqué, hein, parce que toutes les personnes qui travaillent sur le podcast savent que c'est difficile de regarder, de chercher sur TikTok des mots-clés, etc. Mais j'ai vu qu'il y a une IA aujourd'hui qu'il est possible de mettre à route des agents d'intelligence artificielle. On leur donne des mots-clés, ils vont partir sur TikTok, écouter ce qui est dit et essayer de faire de la veille, parce que la veille, c'est très important pour les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux. Et l'IA est importante aussi, ce dernier point, c'est que on est dans nos contextes des médias très fragiles, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de compétences, on le disait tout à l'heure, même le fact-checking, tout le monde n'a pas forcément les compétences pour le faire, mais à local, on peut développer des je sais pas moi, un rédacteur en chef IA spécialiste du fact-check qui dit aux journalistes, attention, parce que le fact-checking c'est aussi une série d'éthique et de déontologie qu'il va falloir respecter. On l'a dit, les journalistes on n'a pas forcément le temps. Mais ça, ce processus de vérification pour voir si on a dépassé les lignes éthiques et déontologiques, une IA peut très rapidement te le faire et te dire attention, là, ligne rouge à ne pas faire, etc.
À faire attention.
Oui.
Alors.
Et si tu me permets de finir, surtout que les IA, il n'y a pas que ChatGPT pour ne pas les nommer. Il y a aujourd'hui des modèles gratuits et qui sont capables de tourner dans un contexte où il n'y a pas de connexion Internet. Ça peut tourner localement sur un ordinateur qui n'est pas du tout branché. Donc, pour des médias qui ont très peu de moyens, je trouve que c'est quand même un outil intéressant qu'il va falloir qu'ils regardent, mais évidemment avec beaucoup, beaucoup de garde-fous, parce qu'on l'a vu, les intelligences artificielles, ça hallucine beaucoup. Ça veut dire que ça dit beaucoup de mensonges aussi.
Voilà, prudence, quand on l'utilise, vous voulez dire. Alors, Jean Bosco, déjà ici au Tchad, est-ce qu'il y a des dispositions qui condamne la désinformation déjà?
Oui, il y a l'article 440 à 442 du nouveau code pénal qui condamne l'association des malfaiteurs informatiques et l'usurpation d'identité, c'est-à-dire le fait d'utiliser des faux comptes pour parfois diffuser des fausses informations, etc. Donc, la condamnation va par la privation des libertés de 5 à 10 ans et des condamnations pour des amendes qui vont de 1 million à 10 millions selon les dispositions pénales actuelles. Donc, c'est que les réformes ont déjà adapté l'évolution et l'intrusion de ces réseaux sociaux-là au niveau de la société tchadienne.
Alors, Saïba, nous revenons à vous. Quelles initiatives citoyennes ou communautaires pourraient compléter le travail des journalistes?
Alors, je pense que pour compléter efficacement le travail des journalistes, il faut s'appuyer sur des relais de confiance. Et ces relais de confiance, moi, je vois des leaders communautaires. On peut également avoir les artistes, le réseau des influenceurs, des blogueurs, ceux-là même qui sont à même de parler le même langage que le grand public. Il faut aussi penser aux responsables religieux, parce qu'on a également, on oublie souvent ce côté-là, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup d'influence, en tout cas vis-à-vis des communautés, voilà, qui peuvent avoir un très gros impact. Et puis, je dirais, le corps enseignant, par exemple, et le corps soignant aussi, sur des questions qui relèvent de la santé publique. Donc, je pense que limite, il faudrait penser à spécialiser un peu les relais par rapport au sujet en lien avec la désinformation. Donc, si c'est quelque chose en lien avec la santé, vous n'irez pas prendre, je sais pas moi, le chauffeur de taxi du quartier pour faire le relais. Donc, il faut vraiment spécialiser ces approches-là. Donc, plus c'est dans le domaine de la santé, on mobilisera des gens là-bas. Et plus ça touche les questions un peu spirituelles, religieuses, on mobilisera également
des personnes
concernées. Je pense que ce sera ça le moyen le plus efficace, en tout cas, d'atteindre le grand public.
Ousmane, quelle peut donc être l'utilité de l'éducation aux médias? Déjà, vous pouvez nous expliquer l'éducation aux médias et en même temps son utilité.
Oui, alors, l'éducation aux médias, en fait, c'est un concept assez simple. C'est de dire, de montrer aux gens, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment les journalistes travaillent, par exemple. Ce serait bien de dire, parce que les journalistes aujourd'hui, quand même, ont fait face à un vrai problème de confiance. Hein, on l'a rappelé tout à l'heure. Les gens font de moins en moins, en tout cas, confiance aux journalistes pour des raisons qu'on connaît. Et donc, ça permet de faire ça et ça permet aussi de montrer aux gens comment, par exemple, là on parle de fact-checking, comment le faire en tant que citoyen, etc. Alors, quand l'intérêt pour moi de l'éducation aux médias, c'est quelque part faire de la prévention, de donner les outils à tout le monde, à tous les citoyens, de pouvoir déjà, à son niveau, comprendre le processus peut-être de fabrication d'une désinformation ou quand on en voit une, quels sont les premiers réflexes qu'il faut adopter. Et si ça nous intéresse, comment on peut aller plus loin que ça. Donc nous, moi j'en fais de l'éducation aux médias au niveau des écoles, que ce soit les écoles primaires, le collège, le lycée, puisque malheureusement, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui le public jeune, pour eux, Internet, c'est TikTok seulement, c'est Facebook seulement. Ils ne connaissent même pas la recherche Google. Ils ne savent même pas c'est quoi. Je ne vous parle même pas des zones dans lesquelles les jeunes n'ont même pas été à l'école où la connectivité, de toute façon, ça n'existe même pas. Donc, il faut aller dans ces zones. Et dans cette éducation immédiate-là, tout à l'heure, on a parlé d'outils élitistes. Alors moi, ce terme, je le ferai revenir ici. Quand on parle d'éducation aux médias, souvent, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est un peu élitiste, justement, parce que on voit souvent le plus souvent vers un public éduqué, entre griffes. C'est les écoles, c'est les enseignants, c'est les acteurs de la santé. Et on oublie tout le reste. Tous les petits vendeurs du coin qui n'ont pas été à l'école, je ne sais pas, les taximans. On ne les intègre pas, alors qu'ils sont aussi des acteurs de la société. Donc, il faut imaginer aussi des formats qui leur sont adaptés, puisque eux aussi, ils consomment beaucoup d'informations à leur niveau, dans les langues qu'ils comprennent. Et donc, il faut développer des modules dans ces langues-là. C'est un travail difficile, évidemment, mais qu'il faut faire le multilingue dans ces aspects des informations. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne voit pas beaucoup, parce qu'il faut se le dire aussi, c'est difficile. Les médias n'ont pas tous les moyens aussi à mettre à disposition pour traduire tout ce contenu et tous les outils qu'on utilise malheureusement qui sont aussi en anglais ou en français. Ça aussi, c'est un vrai barrage. Donc, le facteur qui, je dirais, qu'il n'est pas...
aussi.
Oui, et la langue, c'est des outils en fait qui ne sont pas pensés par nous-mêmes. Parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui que le fact-checker, et je sais que mon ami en face de moi le sait, qui sont beaucoup plus adaptés à chercher de la désinformation dans les langues occidentales, que ce soit l'anglais ou le français. Mais une fois que vous avez de la désinfo dans les langues locales, c'est vraiment un vrai problème. Comment tu fais pour trouver ce terme-là? Comment même on l'écrit, ce terme? Parce que nous-mêmes, souvent journalistes, on ne sait pas un terme X, comment est-ce qu'on... C'est quoi l'alphabet? Comment on l'écrit pour pouvoir le pister sur les réseaux sociaux?
Ça pose problème.
Et l'autre souci aussi, c'est que beaucoup de désinfo, c'est de l'audio. Souvent, avec des variantes, les langues, on en a plusieurs variantes. Chez nous, le Fulfulde, par exemple, et le Fulfulde du Nord n'est pas pareil que celui du... Donc, vous voyez, tout ça, ça ajoute encore une couche de complexité qui fait que l'éducation aux médias devient encore très importante, puisque les journalistes devront s'asseoir et développer des outils accessibles, adaptés à ce public-là, bien précis, et un public qui doit être le plus large possible. Il ne faut pas qu'on se cantonne, qu'on s'en tienne à la facilité de partir directement vers un public qui nous comprend dans le domaine à l'université ou quelque part, mais aussi de toucher cette partie de la population qui est nombreuse et qui n'a pas accès à tous les outils. Puisqu'on l'a rappelé de maintes fois, la désinfo, ce n'est pas seulement en ligne, ça circule aussi de façon hors ligne.
Hors ligne également. Alors, Frédéric, Ousmane parlait tout à l'heure de toucher tous les acteurs de la société civile. Est-ce que, au regard des enjeux, vous pensez qu'on gagnerait plus à inclure l'éducation aux médias dans les établissements scolaires?
Ok. Alors, merci. Je pense que mes prédécesseurs ont dit... ils ont abondé dans le même sens. L'idée, c'est que l'éducation aux médias, c'est d'une importance capitale. Ça va permettre justement déjà de construire des bons citoyens, je veux dire, à la base. Donc en suivant, par exemple, un programme au niveau du primaire jusqu'à l'université, ça permettra justement de, en plusieurs cohortes, de mettre sur place... on va dire quoi, des bons citoyens. Maintenant, à côté, il y a des exclus de ce mécanisme-là dont il parle. Comme palliatif, on peut effectivement, au niveau des communautés, asseoir une espèce de causerie éducative sur la thématique. Parce que, rappelons-le, la société africaine est structurée, de sorte à ce qu'à la base, nous avons dans nos communautés des gens qui sont des voix autorisées pour passer l'information. Quand on parle de crieurs publics, ces rôles-là sont très bien répartis dans nos communautés. Maintenant, à côté de ça, il faudrait qu'on aborde la question en contextualisant simplement la chose et en essayant justement d'abord d'avoir une approche locale pour combler un peu les insuffisances comme les barrières linguistiques et autres. Et moi, je pense que je ferais plutôt une proposition ou une recommandation qui va dans le sens d'avoir une démarche plutôt sous-régionale ou régionale. Parce qu'en fait, on parle de la désinformation, de l'intégrité de l'information, du désordre informationnel. Mais derrière, qui sont ces personnes-là qui, plus ou moins, tirent le bénéfice dans cette manipulation de l'information et tout. Parfois, c'est des organisations qui sont extérieures à notre zone géographique, qui ont un agenda et c'est des choses bien pensées. C'est-à-dire, répondre à la désinformation voudrait qu'on ait une démarche assez méthodique parce que clairement, les organisations derrière la désinformation, ils identifient même le type de porte-parole. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont plus ou moins parfois même de l'autorité morale sur les gens. Uh-huh. Comme Saïd Baladi, le parent et l'oncle. L'autre. Donc, il y a toutes ces dimensions-là à prendre en compte. Ce qui, de mon point de vue, devrait plutôt être pris en compte au niveau régional, pour que dans l'espace Sahel, par exemple, ce soit une réflexion au niveau de nos parlements, d'adapter notre législation à tout cela pour mieux prémunir. Et je citerai l'exemple d'un pays de l'Europe, peut-être la France, qui dispose par exemple d'une structure de veille informationnelle qui est un organisme de l'État, par exemple. Parce que faire de la désinformation avec la précarité des médias, oui, ça ne pourra pas éventuellement être une réponse assez efficace.
Possible. D'accord. Alors, Jean Bosco, on revient à vous. Est-ce que vous pensez que inclure l'éducation aux médias dans les établissements scolaires, ça peut aider lutter contre la désinformation?
Oui, ça peut aider parce que la désinformation, c'est un peu le corollaire de la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand vous trouvez beaucoup de désinformation, c'est parce que une frange de la population se rend compte qu'elle n'a pas accès aux autres médias et se réfugie au niveau des réseaux sociaux pour exprimer sa frustration et autres, tout ça. Donc, ce sont des nouveaux canaux qui sont arrivés dans notre société. Il faut l'intégrer dans l'éducation parce que il faut déjà commencer dès le bas âge à les informer que voilà, la loi, la constitution vous donne le droit de vous exprimer, d'exprimer votre frustration quand c'est possible, mais voilà les limites que vous ne devez pas dépasser. Et aussi les apprendre à comment identifier tout ce qui est fausse information, tout ce qui est image qui est manipulé, qui a été déformé, etc., pour permettre de faire ce travail de désinfox et que cela soit une éducation citoyenne au niveau des écoles, mais aussi au niveau des sociétés, faire des partenariats avec les associations des femmes, les associations des jeunes, avec certains médias publics, etc., pour aider à mieux éduquer la population. Parce que pour ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, il y a les radios qui peuvent être utilisées, et comme on l'a dit, dans les différentes langues, par exemple. Parce que souvent, les fausses informations circulent plus vite à travers des audios WhatsApp, par exemple, et dans des langues locales. Donc, il faut aussi trouver des communautés, comme les autres ont dit, pour qu'à chaque fois qu'il y a une fausse information qui circule, il faut chercher à l'endiguer à travers ces relais communautaires.
Pour pouvoir toucher le plus de public
possible.
D'accord. Saïba, comment est-ce que la société civile peut promouvoir l'éducation aux médias comme réflexe citoyen?
Déjà, en se basant sur plusieurs paramètres, dont l'éducation, je pense que ça, c'est vraiment le nerf de guerre sur cette question-là. Et l'éducation, ce n'est pas que l'éducation dans les écoles, c'est l'éducation dans le sens vraiment très très large du terme. Donc ça peut être une éducation dans des groupes de tontines de femmes, une éducation dans des établissements scolaires, mais pas que des établissements de formation, des universités, et ainsi de suite. Donc c'est, ça va être vraiment le principal levier, ça va être vraiment éducationnel. Et à cela va se greffer toutes les réalités locales dans lesquelles on a envie d'implémenter le projet. Donc la réalité locale, ça va être, est-ce que cette éducation-là passerait mieux par des artistes? Est-ce que cette éducation passerait mieux par des sketchs, par exemple, par des crieurs, comme Frédéric le disait tantôt, ou par des chefs de village, ainsi de suite. Donc tous ces relais-là, il faudrait les mobiliser ensemble, et peut-être que aussi il faudrait les tester, parce que souvent, on fait des plans, on pense que si on se base sur tel levier, ça va mieux marcher, mais arrivé sur le terrain, on se rend compte que non, on est passé à côté de quelque chose. Donc c'est aussi de rester constamment dans l'adaptation par rapport au contexte, l'adaptation par rapport aussi aux informations qui circulent. Donc ce sont sont pour moi en tout cas des éléments qui sont très importants à prendre en compte, et il faut rester constant, parce que si on fait une séance d'éducation et que ça dure 2 heures et que demain on n'est plus là et puis on revient pendant 6 mois et ainsi de suite, ça n'aura pas un impact assez conséquent. Il faut vraiment qu'on arrive à le mettre dans la tête des gens suffisamment de façon solide pour que ça devienne un réflexe de vérifier une information, d'avoir ce doute sain, on va dire, avant de pouvoir relayer à son tour une information.
D'accord, nous sommes presque au terme de l'émission. Alors, un dernier tour de table. Au regard de tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut dire qu'on est optimiste, qu'on peut gagner la guerre contre la désinformation? Frédéric, on commence avec vous.
Oui, alors moi je reste optimiste, et je pense que c'est aussi le cas de tous les autres autour de la table. C'est que gagner cette bataille, c'est pas impossible.
C'est possible, on peut gagner.
C'est possible. Maintenant, il faudrait juste que ce soit intégré dans la stratégie globale à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de la réglementation, et aussi essayer au mieux de les porte-paroles, en tout cas du gouvernement, doivent faire en sorte que qu'il n'y ait pas de vide, c'est-à-dire lorsque il y a une opportunité de prise de parole, il faudrait que cette opportunité soit saisie pour rassurer l'opinion. Parce que plus l'opinion aura, comment on appelle ça, une espèce de manque d'information, ce sera un terreau fertile pour la désinformation.
Oui, s'installer. D'accord. Alors Jean Vasco, avec vous, est-ce qu'on est optimiste qu'on gagnera la guerre un jour?
Oui, face à la désinformation, surtout aujourd'hui, au Sahel central, je crois que le fact-checking n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil qui est essentiel, parce que ça protège la cohésion sociale, ça renforce la démocratie et ça aide aussi les citoyens à s'orienter dans la masse d'informations contradictoires qui existent. Donc, il faut être optimiste, avoir des formats qui sont diversifiés, adapter la vitesse par rapport aux différents risques que cela peut produire, et puis trouver des stratégies qui peuvent être ancrées dans les réalités sahéliennes, etc. Radio, réseaux sociaux, langue locale, comme nous l'avions dit, une pédagogie et puis une mobilisation communautaire. Et je crois qu'un jour, la bataille sera gagnée.
On est optimiste.
Merci.
Alors, Saïba, avec vous, est-ce qu'on peut croire à la fin de la désinformation un jour?
Moi, je dirais plutôt que le fact-checking ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Uh-huh. Et sur cette base-là, pour la question d'optimisme, je pense qu'on n'a même pas le choix. D'ailleurs, on n'a pas le choix.
On est obligé.
on est obligé d'être optimiste et il faut s'adapter par rapport à ce qui se présente à nous parce que ça, ce sont des questions de notre époque et il nous appartient à nous de trouver des solutions à ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a connu la vague Covid. Aujourd'hui, les gens vivent tout en sachant qu'il y a quand même le virus qui circule. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé une solution d'adaptabilité, d'adaptation et il faudrait qu'on fasse la même chose. Je ne pense pas que les fausses informations vont cesser du jour au lendemain. Je suis sûr qu'elles ne vont pas cesser, mais si jamais le monde est suffisamment éduqué, je pense qu'on y accordera moins d'attention, on aura les outils pour mieux les contrôler et donc à partir de ce moment-là, effectivement, je pense d'une certaine façon, on gagnera la guerre.
On gagnera la guerre. Alors, Ousmane, avec vous, pour terminer assez rapidement, il reste une minute.
Je rejoins un peu mes collègues, je reste obstinée.
Mais est-ce que vous-même, comme, en tant que fact-checker, vous êtes fact-checker de formation, ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le fact-checking va changer la donne?
Bon, il pourra changer la donne dans une certaine mesure. Il est déjà en train de changer la donne. Si on a aujourd'hui ce débat aussi, c'est parce que quelque part, il y a des discussions qui se posent. Mais pour le moment, ce qu'on observe quand même, c'est la désinfo qui est en train de gagner parce qu'on voit beaucoup de changement politique dans beaucoup de pays dû justement à la désinfo. Cela ne veut pas dire qu'on baisse les bras, cela veut dire simplement qu'il faut que l'on s'assied, qu'on réfléchisse, qu'on change notre façon de faire, puisque les gens ont changé leur façon de s'informer. Avant, les gens partaient acheter un journal dans le kiosque, ils partaient chercher l'info, mais aujourd'hui c'est l'info qui vient à toi, une information souvent que toi-même tu n'as pas choisi. Donc ça c'est de nouvelles règles, la façon de changer, de s'informer a changé, et donc il faut aussi qu'on ait cette capacité d'adaptation. Il ne faut pas qu'on reste, parce que souvent on reste trop dans les choses qu'on sait faire pour nous. Bon, ça c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Non, il faut aussi que les médias apprennent à bouger, qu'ils l'ont démontré d'ailleurs, mais même si souvent ils le font trop tard, mais il faut quand même suivre la tendance, être assez réactif, produire du résultat rapidement et ne pas se dire que cette chose n'a aucune chance d'aboutir. Il faut vraiment essayer de regarder avec un œil pragmatique tout ce qui est en train de se passer et apporter des solutions qui s'adaptent. Mais encore une fois, j'insiste sur le contexte, vraiment qui touche notre contexte à nous, parce que encore une fois, malheureusement, tous ces outils aujourd'hui qui nous posent problème, ce n'est pas des outils qui ont été même pensés pour nous ou créés par nous, c'est des outils qui viennent d'autres pays et qui font beaucoup de dégâts malheureusement sur le continent.
Donc vous êtes aussi optimiste que votre travail va bientôt porter des fruits.
On l'espère.
D'accord. Nous ici au terme de notre débat. Le thème du jour était « Que peut le fact-checking face à la désinformation ?» Et à quel format, quelle stratégie, quelle vitesse toucherait le plus de public? Vous avez été nombreux à profiter de l'expertise de nos invités de ce jour. Et nous étions en compagnie de Jean Bosco Manga, juriste, journaliste et écrivain tchadien. Yaba Gousmon, il est chroniqueur et acteur de la société civile tchadienne. Aussi Ousmane Mamoudou, il est rédacteur en chef adjoint chargé du numérique au studio Kalangou du Niger. Frédéric Doumbé, directeur de l'information du groupe Tchad Info. Voilà, alors nous sommes ici au terme de notre émission du jour et nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci également à nos invités pour le déplacement. À la technique, nous avions Maurice Mangré avec nous. Excellente suite de programme à tous et à toutes.